si nous pratiquons la méditation, c'est peut-être pour simplement avoir suffisamment de solidité à l'intérieur pour que nous puissions nous ouvrir au monde sans paniquer et de manière sage, compassionnée. Et c'est un sacré défi, parce que le monde est un défi. Et pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir être en chemin vers ce cœur de l'être qui nous permet d'être dégagés du monde pour ne pas en avoir peur, pour ne pas tomber dans le désespoir. Et en même temps pouvoir nous y engager vraiment. Et pour ça, la pleine conscience est précieuse, et cette quête d'équilibre, ce qu'on appelle l'effort sage, permet ce dégagement qui fait qu'en même temps je sais que je ne suis pas de ce monde et que je peux, parce qu'il y a cette confiance, m'y engager sans panique, avec confiance. Et cette solidité, elle est manifestée à chaque fois que nous sommes, quand je suis, juste maintenant, je suis là. C'est une manifestation de cet être essentiel qui est au-delà de la vie et de la mort. Et c'est facile d'être là, juste maintenant, une fois, mais combien c'est difficile de rester là. Ça demande de la persévérance, du courage, ça demande de donner de soi-même. C'est Ramana Maharishi qui disait « La paix n'est pas notre droit de naissance. Ceux qui réussissent sont ceux qui persévèrent. » Et au début, nous sommes facilement déséquilibrés. Les obstacles arrivent et ils envahissent la conscience. Avec cette impression de malaise, je ne suis pas dans la cible, je fais faux. Et peu à peu, nous trouvons l'équilibre parce que nous trouvons le bon objet de conscience. Nous ne focalisons pas tellement sur l'obstacle, mais sur le mal-être qu'il procure. Ah ouais, bah ouais, c'est un obstacle, ça crée du mal-être. Je ne suis pas dans la cible. Et le fait de trouver ce bon objet de conscience recrée l'équilibre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un chemin de connaissance. Et nous questionnons. Qu'est-ce qui est là maintenant ? Et souvent, cet effort sage demande de ne pas savoir. Juste maintenant, je ne sais pas trop bien. Ok, je suis avec un obstacle, l'aversion ou l'agitation. Et puis il continue, il colle. Ah bah, des fois, c'est comme ça, il doit coller. Mais quelquefois, c'est parce que je ne focalise pas vraiment au bon endroit. Donc nous apprivoisons ces énergies de l'ombre sous forme d'obstacles ou d'émotions perturbatrices. Et peu à peu, elle lâche. Et ce n'est pas moi qui lâche. Moi, je ne fais que ma part en aidant le Dharma à lâcher. Et quand il y a ces moments difficiles où il y a du doute, nous explorons, nous questionnons. Et ça se solutionne. Ça se solutionne quelquefois parce que je trouve, ça fait une sorte de réalisation. Ah ouais, c'est ça. Quelquefois pas, mais avec le temps, ça s'atténue. Quelque chose d'autre émerge. Et la capacité de voir devient plus claire. Au lieu que je veuille toujours quelque chose, j'arrête de vouloir quelque chose, je me mets un peu en retrait et je me demande qu'est-ce qu'il y a. Et je suis toujours surprise parce que le chemin n'est jamais fini. Une fois que j'ai trouvé, que j'ai l'impression d'avoir fait un sacré bon boulot, eh ben, y a le défi suivant. Et puis voilà que je ne trouve plus rien de nouveau, c'est de nouveau complètement opaque. Et cette tendance à vouloir créer quelque chose émerge de nouveau. Je veux faire pour que ça aille mieux. Et plus il y a d'attente, plus il y a de souffrance. Au début, nous sommes beaucoup dans c'est juste, c'est faux, j'ai tort, j'ai raison. Il y a beaucoup de va-et-vient, l'équilibre n'est pas très fréquent. Et puis peu à peu, non pas tellement parce que nous trouvons quoi que ce soit, mais simplement parce que nous continuons à pratiquer, ça se pose. Ça demande de faire pour rien. Je vous lis une petite histoire du Moula Nasruddin en un encore pas eu pendant toute la retraite. Moula Nasruddin s'est marié et il a installé une chaise contre un mur pour exercer la méditation. Et tous les soirs, il reste une heure immobile, l'oreille toute proche du mur. Et quand sa femme veut lui parler, il met un doigt sur la bouche. Au bout de quelques temps, elle n'y tient plus, elle lui demande « Mais enfin, qu'est-ce que tu entends ?» Le moulin sort de son silence et lui dit « Fais comme moi si tu veux savoir. » Ils sont donc tous les deux assis sur une chaise, l'oreille toute proche du mur chaque soir. Au bout de 15 jours, la femme dit au moulin « Tu sais, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais je n'entends rien. » « Mais quel manque de persévérance! Moi, ça fait 2 ans que j'écoute et je n'ai encore rien entendu. » Et le rien, c'est ce que nous cherchons. Il est déjà là. Lorsqu'il n'y a rien, pourquoi vouloir créer quelque chose? Et alors, l'équilibre à questionner, on en a déjà un peu parlé, c'est cet équilibre d'abord entre concentration et pleine conscience. La concentration, c'est la capacité de l'esprit à s'unifier avec l'objet. Nous prenons un objet de conscience. Ça peut être la respiration, c'est souvent la respiration, tout le corps qui respire. L'intérêt est limité, il est limité volontairement par sagesse. Je ne regarde que ça. Et peu à peu, le corps se calme, le cœur devient tranquille. tranquille et l'esprit se pose. C'est ce qu'on appelle l'unification momentanée. C'est quelque chose qui est nécessaire pour équilibrer la pleine conscience, mais qui est encore tout à fait attaché au monde. C'est une expérience spirituelle. Et l'esprit est présent, il est stable, il est en même temps spacieux et focalisé, c'est-à-dire que ça n'est pas une focalisation fermée, mais elle est stable sur l'objet. Et il y a une notion de choix. Nous avons le choix. L'esprit expérimente une liberté bienfaisante. Je peux choisir ce que je veux faire pour focaliser l'esprit. Et quelquefois, nous pouvons rester très longtemps. Ça donne un sentiment d'être hors du temps, comme si le temps s'était arrêté. Je me souviens d'une nonne Upeka qui était restée 7 heures assise sans bouger. Alors moi, à l'époque, oh, c'était mon rêve, 7 heures sans bouger. Extraordinaire. Et la concentration peut faire rêver, parce que c'est vrai que c'est très agréable. C'est une joie spirituelle importante, mais elle est anicca, elle est impermanente et s'y attacher, c'est la pervertir comme toute chose. Je me souviens une fois au Forest Refuge, j'avais cet état de concentration, je me sentais bénie par le ciel, la terre, que j'étais là, puis tout d'un coup, il y a une pensée qui est venue. Ouais, bon, ben, quand est-ce qu'on mange? Et la concentration va avec la pleine conscience. Nous pouvons très bien être en train de travailler la concentration et tout à coup, quelque chose nous appelle, une émergence. Et la sagesse, alors, c'est de focaliser sur ce qui est prioritaire lorsque ça a un poids et de contempler l'instant pour le purifier, parce que c'est ça qui développe la sagesse. Et avec la pleine conscience, nous entrons dans un travail qui n'est plus lié au monde, mais qui est vraiment lié à cette aspiration à traverser le monde, à aller au-delà, à le dépasser. Et alors le but n'est plus du tout une bonne expérience. C'est presque le contraire. Alors quand je dis ça, j'ai toujours un peu peur de dire ça, parce qu'après il y a des gens qui viennent et qui me disent « j'ai jamais peur, je devrais avoir peur ». Et c'est vrai que le but n'est pas une bonne expérience, mais ça n'est pas non plus une mauvaise. Mais c'est cette confiance de vue claire de l'instant qui change. Une grande différence entre dire « je suis en colère » ou je suis angoissée, ou dire il y a colère, il y a angoisse. Donc nous dégageons ainsi la conscience de l'expérience et en même temps nous la laissons être ressentie. C'est effaçage entre concentration et vue claire ou conscience. Peu à peu, c'est évident de quoi l'esprit a besoin pour être en équilibre. Mais au début, ça ne l'est pas du tout. Donc, j'aime bien quand les zen disent « Le chemin est difficile parce que, en fait, nous employons le moi pour aller au-delà du moi. C'est comme si nous étions dans une boîte et les instructions pour sortir sont écrites à l'extérieur. » Alors, nous essayons. Un petit peu ici, un petit peu là. L'autre équilibre, c'est celui entre la sagesse et la compassion. La sagesse qui est objective, qui simplement nomme, qui a le courage d'aller voir, et la compassion qui travaille le comment être là. Et nous pouvons voir travailler le ton de notre voix, travailler la qualité de cœur avec laquelle nous recevons l'expérience, cet amour de l'instant. Et le faire par les paroles de Metta est, quand il y a la misère, ça n'est pas possible de venir avec des paroles de bienveillance parce que je ne peux pas me décoller, je ne peux rien m'offrir, c'est juste douloureux. Je suis sous l'emprise. Et alors, quelquefois, ces paroles de compassion peuvent libérer. Je suis sensible à ma peine. Lorsque je ne me sens pas à ma place sur cette terre. Et nous travaillons d'abord les petites souffrances pour habituer l'énergie du corps à l'effaçage qui évite de se mettre en conflit avec l'expérience. On peut bien sentir lorsque nous disons « je suis sensible à ma peine », comment énergétiquement les choses s'ouvrent. Nous terrassons le dragon de l'ignorance. Je me souviens, je faisais une retraite en dessus de Lucerne, il y a longtemps, avec Joseph Goldstein, et il y avait une fille que j'aimais bien, Michelle MacDonald. Et puis, j'ai une attaque de haine. Puis je détestais tout dans la salle, tout. Je détestais tout, je regardais, mais je détestais tout. Les lumières, je ne pouvais pas aller voir mon photo, les rideaux, pour ne pas parler des gens. Et puis, c'était très intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré Mara et je détestais Mara. Et puis, j'aurais pu le tuer. Puis, ce qui est venu, c'est « Ah non, 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 ne le tue pas, il est précieux. » Et c'était chouette de voir comment la sagesse dans cette espèce de… On construit des choses hein, dans une retraite, disait… L'importance de Mara en tant que stimulateur de notre sagesse. C'est lui qui stimule notre sagesse. Comment faire pour être en paix avec le dragon qui émerge? Nous ouvrons l'espace de conscience. Et alors nous pouvons sentir l'anxiété, être en paix avec l'anxiété, sans que ce soit moi qui suis anxieuse. C'est Suzuki Roshi qui dit « Vous feriez mieux de vous réjouir des mauvaises herbes du jardin de l'esprit, car en définitive, ce sont elles qui enrichissent votre pratique. » Et quand il y a le soulagement, ouf, ça va bien. Des fois, c'est juste parce que la cloche sonne. Des fois, c'est parce que la situation se stabilise. Alors, nous pouvons sentir pleinement. Et voir comment c'est anicca. Et ça, ça donne l'équilibre. C'est impermanent. Cette conscience claire de l'impermanence permet le fil rouge, nous permet de retrouver ce fil rouge. Donc nous pouvons questionner quel est l'effort sage. Est-ce que c'est d'aller dans quelque chose d'objectif ou plutôt dans quelque chose de chaleureux? Et puis peu à peu, ça se met ensemble. Ce qui aide aussi à accepter le chaos de l'ignorance, c'est cette notion du karma. Je pourrais être toi. Accepter l'inacceptable. Je pourrais être toi. Et alors, peu à peu, l'esprit change de regard. Au lieu que nous voulions toujours ce que nous voulons, nous écoutons ce qui vient. Nous sortons de cette arrogance du contrôle. Nous avons toujours ce petit gendarme qui dit « fais ceci, fais cela ». Nous apprenons à le connaître, à le voir avec amour. Et alors, cette quête de l'effort sage devient plus douce, plus précieuse. J'avais trouvé une petite parole dans un livre de poésie à Geyerhaus, c'est M. Brown qui dit « Ce que nous aimons, nous l'appelons bon. Ce que nous n'aimons pas, nous l'appelons mauvais. Et nous devenons des petits dieux avec des pieds crottés et des derrières sales. » Nous prenons pour des petits dieux alors que nous pouvons être Dieu maintenant, lorsque nous arrêtons de croire à ces objets de conscience qui changent sans cesse. C'est la fin de la contraction face à la peine et la fin de la fascination face à la joie. Et ça se libère ensemble, ce qui est objectif et ce qui est chaleureux. C'est les jugements deviennent... Il n'y a pas de dureté face au jugement. Ils peuvent être là, mais je n'y crois pas. Et puis, il y a cet équilibre entre moi et les autres. Combien c'est bon quelquefois lorsque je suis perdue dans l'aversion ou un conflit quelconque, de juste ouvrir l'énergie aux autres dans la salle, de sentir que nous sommes là ensemble, que ça ne se passe pas que pour moi, que c'est notre souffrance partagée et que je peux aussi penser aux autres qui juste maintenant ont un moment difficile et ressentir leur peine. Et quand tout va bien pour moi, au lieu de me mettre sur mon piédestal, ah ben il y en a peut-être des autres pour qui ça va tellement bien pour eux maintenant. Et être dans cette joie partagée. Le travail de ces phrases de compassion ou de bienveillance s'adresse à nous-mêmes et aux autres. Et quelquefois, c'est vraiment bon de faire pour moi, mais quelquefois, ça goûte plus tout à fait bien. Parce qu'il faut que j'aille, que je pratique avec pour quelqu'un d'autre. Et alors, cette pratique de moi et des autres enlève au moi cette illusion qu'il a besoin d'être tout. Ok, je fais ma part. Je me souviens quand, j'espère que je ne l'ai pas déjà raconté, des fois je raconte toujours les mêmes choses. Je me souviens quand tout d'un coup, l'image m'est venue d'une fleur. Je l'ai déjà raconté ? Non ? Ouf ! Une fleur, et puis on est une fleur, et puis il y a des pétales, et puis je suis un des pétales. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'être tous les pétales à la fois ? Je ne peux pas en laisser un peu pour les autres. Ah, c'est ok d'être moi-même. Pas parfaite, mais ma foi, je suis moi-même. Et puis avec tous ces moi qu'il y a là, ça fait la fleur. Ça libère beaucoup de cette espèce d'illusion que j'ai besoin d'être parfaite, qui part d'un bon sentiment. J'ai envie de donner, mais je ne peux rien donner d'autre que ce qui m'a été donné. Et qui est limitée. Nous faisons beaucoup trop d'efforts avec cette envie d'être tout. Et nous nous épuisons. Nous pouvons lâcher les projections sociales, les paranoïas sociales. Et plus je peux être moi, dans le sens de connaître le qui suis-je, celui qui est limité, avoir vu toutes ces émergences de l'ombre, et en même temps apprivoiser la pleine conscience, mieux connaître l'outil de la pleine conscience, plus je peux aussi laisser les autres être eux-mêmes. Et moins j'ai besoin de projeter un idéal sur quelqu'un d'autre qui n'existe pas. Et moins j'ai besoin d'avoir peur de l'impact de l'autre sur la conscience. Ça devient simple dans l'interrelationnel. Et ça aide beaucoup de se laisser sentir la présence des autres, de pratiquer metta. Peut-être justement pour quelqu'un, même dans ce groupe que j'aime bien, ou quelqu'un dans ce groupe avec qui j'ai un peu de difficulté, une retraite, c'est un petit groupe, c'est une petite société. Et ce que nous vivons en retraite, les uns avec les autres, c'est ce que nous vivons dans nos vies. Moi, je me souviens la trouille que j'avais, j'avais à la base une grosse parano sociale. Et je me souviens la peur que je pouvais avoir pour des histoires, si j'y pense, je trouvais ridicule, mais je devais aller amener le thé à un moine. Mais en retraite, comme on devient très proche de ces énergies de l'ombre, j'avais une parano totale. C'était un problème maximal. Très intéressant, mais intense. Des petites histoires à raconter, mais je vous libère de moi. Et puis, l'autre aspect dont j'aimerais vous parler, c'est le non-effort. Quelquefois, l'équilibre est réalisé. Et alors, nous pouvons laisser faire le dharma à l'intérieur de nous-mêmes. La conscience habite le corps, mais elle est spacieuse. Et il y a une sorte de circulation intérieure, extérieure. Nous n'avons aucune idée sur ce que devrait être la pratique, aucun idéal sur ce que devrait être l'instant. Des fois, il n'y a rien, ou bien il y a quelque chose. De toute façon, je sais que c'est conditionné. Au fond, l'objet de conscience est mis à sa place et il n'y a plus cet impact de l'objet sur la conscience. L'esprit est vidé. Il est vidé de la saisie. Et ça donne une légèreté à l'expérience, une certaine douceur, un peu d'humour et un engagement du sérieux. Parce que le cœur est vulnérable, nous pouvons tellement souffrir. Nous savons que nous ne sommes ni nos problèmes, ni nos réussites. Alors, qui suis-je? Je suis ce qui peut voir comment se crée la souffrance et comment se libère la souffrance. Et dans une retraite, c'est bon de temps en temps de sentir, plutôt que d'identifier trop à l'objet personnel, de sentir, ah ouais, là c'est le sens du temps. Absence du sens du temps, délicieux, c'est délicieux. Présence du sens du temps, wow, je suis impatiente, là j'en peux plus. Hein. Ouh, ça finit bientôt. À présence du sens du temps. Ou le sens du moi. Je ne fais pas bien, mais je fais pas bien. Je ne fais pas bien. Ou bien je fais bien. Oh, je fais bien. qu'est-ce qui me réjouit le plus? Nous pouvons vraiment aller voir qu'est-ce qui me réjouit le plus quand il y a le sens du temps ou quand il y a une absence de sens du temps. Quand je me sens fautive ou bien quand je me sens vraiment bien faire ma part, qu'est-ce qui me réjouit le plus? Si vous voulez que cette réjouissance lâche, il faut la questionner. Le jugement ou la comparaison, est-ce que j'aime mieux être bien, faire bien, être la meilleure, ou bien est-ce que j'aime mieux être la dernière roue du char, être oubliée de tout le monde? Qu'est-ce qui me réjouit le plus? Et les émotions, la joie, la gratitude, ou bien la tristesse, la frustration, le découragement. Je peux voir qu'est-ce qui me réjouit le plus. Et finalement, la vie et la mort. Qu'est-ce qui nous réjouit le plus? Et allez savoir si nous avons raison de nous réjouir tellement de la vie. Lorsque nous nous réjouissons, il n'y a pas de miracle, nous allons aussi regretter. Parce que la libération n'est pas du bon karma. La libération, c'est le dégagement de ce monde. Et il y a peut-être urgence parce que le monde risque de devenir de plus en plus difficile pour le moi. Mais pour le non-moi, il reste simplement le monde. Alors, nous continuons à faire notre part, bravement. J'ai une petite histoire. C'est un bouddhiste qui va au monastère, puis comme tout bon bouddhiste, il demande à un moine qui médite dans le jardin « Est-ce que vous pourriez venir chez moi pour offrir des chants de bénédiction ?» Il croit un peu à la magie. « Non, c'est impossible, dit le moine, je suis trop occupé. »« Oh, dit le bouddhiste étonné, et à quoi êtes-vous occupé ?»« Eh bien, je suis occupé à ne rien faire. » Le bouddhiste rentre chez lui à quelque temps plus tard. Il se rend à nouveau au monastère, il rencontre le même moine et il tente sa chance. « Namasté, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez venir chez nous offrir des chants de bénédiction ?»« Non, dit le moine, je suis toujours occupé. »« Mais vous ne faites rien, dit le bouddhiste. »« Oui, dit le moine, mais je n'ai pas fini. » Donc, nous continuons à chercher ce qui est déjà là. Et nous ne pouvons pas arrêter de faire ça, mais nous pouvons le voir. Et lorsque je le vois, j'en suis libre. C'est encore Suzuki Roshi qui dit « Arrêter l'esprit ne veut pas dire arrêter les activités de l'esprit ». Ça veut dire que l'esprit reçoit la totalité des expériences sans être dérangé. C'est assez de voir. Est-ce que je peux comprendre que c'est assez de voir? Il n'y a pas besoin de plus. Peu importe ce que je vois, simplement, je continue à voir, à ne rien faire. Et continuer à voir, ça n'est jamais fini. Parce que c'est aussi la nature de la conscience. Elle est pure réceptivité. C'est sa seule fonction. Alors, mettons la vie dans nos vies. Je vais finir avec le Bouddha qui dit « La présence est le chemin. Celui qui est présent ne meurt pas. Celui qui n'est pas présent est déjà mort. » Nous pouvons prendre un moment en silence.